Bonjour. Excusez-nous pour le retard. Il y a toujours des choses un peu à mettre en place. On est nombreux. On est là pour répondre peut-être à la question « qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle ?» Et comme c'est certainement pas moi qui vais répondre, moi je suis là pour faire parler les gens, on va écouter 5 personnes qui sont dans l'ordre Jean-Noël Lafargue, qui a écrit en particulier, bon, qui est un artiste, un professeur d'art, hein, et qui a coécrit un livre de vulgarisation sur le thème de l'intelligence artificielle. Dans la série La BDTech de tous les savoirs, c'est ça ?
La petite BDTech des savoirs.
La petite BDTech des savoirs, j'étais un peu trop ambitieux. Denis Van Der Beek, réalisateur et en particulier auteur d'un documentaire sur Alan Turing, qui peut être vu ici, je ne sais plus à quelle heure, mais...
Je crois que le film passe demain au milieu de journée.
Voilà. Donc, une fois que vous l'aurez écouté, vous irez voir son film demain. Frédéric Landragin, qui est un spécialiste de l'interaction homme-machine, en particulier en ce qui concerne l'usage du langage naturel et l'identification des indices visuels par les machines. J'espère pas dire de bêtises, mais il me rectifiera. Sylvie Lenné, qui elle aussi s'occupe de la structuration du langage, qui est professeure d'université en sciences de l'information et de la communication. Et Anne Leckie, qui est l'auteur de la trilogie des titres où il y a ancillaire à chaque fois, donc la justice de l'ancillaire, etc. La trilogie de l'Empire Ratch, que vous connaissez certainement si vous êtes lecteur de science-fiction. Et donc, on va commencer avec Jean-Noël. Et Jean-Noël, est-ce que tu peux nous donner rapidement une idée de ce qu'est l'état de l'art en intelligence artificielle ? Parce que l'intelligence artificielle, moi, évidemment, le béotien ou le lecteur de science-fiction que je suis, je m'imagine la machine à laquelle je vais pouvoir parler, qui va me répondre comme un humain, qui va avoir des intentions, une conscience, des sentiments et des choses comme ça. Et bien sûr, c'est une vision assez naïve et peut-être que tu peux préciser un peu ce qu'on sait faire pour le moment en intelligence artificielle et ce qu'on appelle intelligence artificielle dans le cadre de la recherche actuelle.
Oui. Alors, c'est une très vaste question. Il y a toute une histoire de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, à ma connaissance, pas de scientifiques qui fassent des recherches sur l'intelligence artificielle de fiction, finalement, des machines avec des intentions, avec une sensibilité, etc. Mais par contre, c'est une recherche qui avance toujours. Il y a toute une époque où on pensait qu'elle était un peu moribonde. Elle était un peu passée de mode, mais aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. J'ai vu, par exemple, à l'université Marie et Pierre Curie à Paris, au laboratoire de l'ISIR, un petit robot amusant qui a 6 pattes, et qui sait se déplacer d'un point à un autre. Et on lui dit, voilà, tu vas de ce point à ce point. C'est très mécanique. Hein. Et puis, on lui casse une patte, n'importe comment. Il n'a pas de capteur qui lui permette de comprendre quelle patte est cassée, ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est que quand il essaye d'avancer, comme d'habitude, ça ne marche pas. Et donc, il essaye de... Enfin, rêver, c'est certainement pas le bon mot. C'est un mot un peu... romantique, mais il imagine, il modélise différents types de marches. Il essaye d'imaginer en 3D différents types de marches et il a quelques secondes pour trouver celle qui va être la bonne pour l'amener au bon endroit malgré son défaut. Voilà, c'est sur ce genre de choses très pointues finalement que travaille l'intelligence artificielle actuelle. Une branche, il y a d'autres branches. Voilà. On parle beaucoup du deep learning en ce moment. Qui a fait faire des progrès énormes à des choses qui n'impressionnent pas toujours les gens, alors que c'est impressionnant, comme la reconnaissance des visages ou des choses comme ça. Vous voyez, quand Facebook comprend qui est sur la photo que vous venez de charger, c'est parce qu'il a des logiciels de deep learning qui fonctionnent très bien. Voilà. On va reparler du...
Très bien. Ouais. Alors, Denis, donc toi, tu sais quelque chose sur Turing, comme peut-être un peu plus que la moyenne de nous. Et Turing, il est célèbre pour le test, hein, de Turing, c'est-à-dire on se dit que on arrive à l'intelligence artificielle quand on peut avoir des réponses qui peuvent passer pour humaines. Mais quelle était vraiment l'intention, le rêve de Turing, pour autant qu'on puisse le connaître, en matière d'intelligence artificielle, quand lui, il a travaillé, c'est-à-dire il y a maintenant 70 ans, ou des choses comme ça?
Ouais. Alors, donc, Turing, avant tout, c'est un mathématicien. Donc, il a travaillé, en fait, à cheval avant la Deuxième Guerre mondiale et un petit peu après. Alors, il y a quelques années, personne connaissait le nom d'Alan Turing. Maintenant, à cause notamment du film hollywoodien avec Benedict Cumberbatch, il est nettement plus connu. Donc, on a une image de lui. C'est quand même avant tout un scientifique, un mathématicien, et c'est un mathématicien un peu particulier en ce sens qu'il s'est posé des questions, qu'il a imaginé des façons de résoudre le problème avec des machines. Et effectivement, la machine est vraiment au centre de sa pensée. Son idée centrale, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre du mécanisable, qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qui peut rentrer dans le domaine de l'algorithme. Et donc, à partir de ça, il est très connu pour ça, pour avoir justement fait tout un travail de décryptage des codes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, de la même façon, en construisant en fait une machine qui allait faire le travail à sa place, en fait. Et puis, effectivement, le test de Turing, donc ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un pionnier. Turing est aussi vraiment l'un des pionniers importants de l'informatique. C'est vraiment lui qui a poser les bases théoriques d'une grande partie de cette histoire-là. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 40, en fait, à l'époque où donc les premiers ordinateurs sont en train d'arriver à la connaissance du public, en fait, à une époque où on parle vraiment de cerveau électronique, en plus, il y a vraiment cette idée très tôt, dès le début, que les ordinateurs vont penser. Et donc Turing, sa contribution importante à cette histoire d'intelligence artificielle, c'est qu'il publie un article qui s'appelle Can Computers... Non, c'est pas je pensais à Can Computers Things, mais je pense pas qu'il utilise le mot computers à l'époque. Mais en tout cas, donc il publie un article en fait qui commence par se poser la question en fait, est-ce qu'un ordinateur va un jour pouvoir penser? Et la première chose qu'il fait, en fait, c'est de dire, finalement, cette question, elle est trop imprécise. C'est-à-dire que, est-ce qu'une machine va pouvoir penser plus exactement? Alors déjà, une machine, je ne sais pas exactement bien où s'arrête le domaine de la machine. Et alors, penser, en plus, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Philosophiquement, tout ça est beaucoup trop compliqué. Donc, ce qu'il fait, en fait, dans l'article, c'est qu'il essaye de trouver un équivalent, une espèce de critère plus simple qui pourrait modéliser, en fait, ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que penser. Et donc, il arrive à un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est vrai que, finalement, c'est maintenant, notamment dans la science-fiction, c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu souvent, mais enfin, je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc, en fait, l'idée, c'est simplement de dire qu'on va mettre deux personnes séparées en fait par un mur et qui vont communiquer par du texte. Il y a donc quelqu'un qui essaye de montrer qu'il est un humain et de l'autre côté un juge qui essaye de savoir s'il est en train de parler à un humain ou à une machine. Et donc le but pour la machine, c'est de convaincre le juge qu'il est un humain. Et effectivement, on peut avoir aussi un test, enfin, disons, un référent qui est un humain qui essaye lui-même de convaincre l'expérimentateur qu'il est humain. Et voilà. Et il dit, bon, cette question-là, par contre, on peut peut-être commencer à y répondre. Et donc, il essaye de se représenter ce que ça peut être, comment ça peut marcher, quels sont le type de questions qu'on va pouvoir poser, comment l'ordinateur peut jouer le rôle de l'humain, etc. Il fait en plus, après, donc, il développe tout ça et puis il fait une prédiction, mais il voit tout ça à un horizon très très lointain, parce qu'il dit de toute façon, il est évident qu'il n'y aura pas d'ordinateur qui sera même en mesure très vaguement de loin de passer ce test avant au moins un siècle. Et puis il donne aussi ce qui est assez rigolo, il donne des données quantitatives, c'est-à-dire il dit oui, alors j'imagine que vu la capacité que je calcule d'une façon un peu bizarre du cerveau humain, il va falloir tant d'octets de mémoire dans les ordinateurs pour y arriver, parce qu'il y a des calculs qui sont un petit peu rigolos parce que ça n'a pas vraiment de sens. Disons qu'en termes de mémoire, on y est depuis longtemps, mais en termes de capacité à passer ce test en réalité, ça par contre, on n'y est pas.
Alors justement, ce test passe par le langage. Donc Frédéric, tu as sûrement des choses à dire là-dessus.
Oui, donc moi je m'intéresse plus particulièrement aux intelligences artificielles qui parlent et qui comprennent ce qu'on leur dise. Et là, malgré les progrès du deep learning et de plein de choses, effectivement on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune machine qui à l'heure actuelle passe le test de Turing de manière propre, où on se dit, bah oui, c'est évident que la machine a un niveau presque humain de dialogue. Du coup, nous, on essaye de préciser encore un peu plus le test. Et donc, le test de Turing tel qu'il vient d'être décrit, on l'a laissé un peu de côté. Et à la place, maintenant, on se sert de quelque chose qui s'appelle les schémas de Vinograd. Alors, c'est quoi les schémas de Vinograd ? En gros, c'est un couple de phrases, donc deux phrases, qui ne se distinguent que par un mot échangé par un autre. Et on essaye de voir si la machine arrive à comprendre la subtilité de différence de sens qu'il y a entre les deux phrases. Exemple, c'est des exemples très très simples, très très bêtes. Hein. La poussette ne tient pas dans la valise parce qu'elle est trop grande. Vous comprenez tous que le L de « elle est trop grande », c'est la poussette. La poussette ne tient pas dans la valise parce qu'elle est trop petite. Donc exactement la même phrase avec « petite » à la place de « grande ». Cette fois, « L » ne désigne pas la poussette, mais la valise. C'est bien la valise qui est trop petite. Tous les humains, tous, on comprend immédiatement le sens de « elle », c'est-à-dire la référence de « elle ». Est-ce que « elle » reprend la valise ou la poussette ? C'est ce qui s'appelle le problème de la référence en linguistique. Une machine en est incapable, ou en tout cas, elle a énormément de mal parce que les phrases se ressemblent tellement que statistiquement, le mot « elle » peut, dans les deux cas, référer aussi bien au premier élément de la phrase qu'au deuxième. En gros, à l'heure actuelle, les humains font 100% à cette tâche, à ce test. Les machines en sont à 60 à 65%, ce qui peut paraître déjà pas mal, mais en fait, c'est très mauvais. En traitement automatique des langues, on considère qu'un système devient vraiment intéressant quand il dépasse les 95%. Et là, on en est très très loin.
Mais en dehors du test de Turing, est-ce qu'on a des progrès en traitement automatique des langues ? Dans quelle direction ?
Alors, à l'heure actuelle, les systèmes qui marchent bien font des tâches qui peuvent paraître extrêmement simples. C'est-à-dire juste, on lui donne au système un texte tout venant qui vient du web par exemple, et la première tâche c'est de segmenter les phrases. Nous ça c'est évident, on repère les points, on sait très bien où s'arrête une phrase, etc. Une machine, ça demande des difficultés parce que les points sont aussi utilisés dans les abréviations, dans les acronymes, dans des mots composés comme on en trouve dans les romans de SF, hein. Donc la segmentation en phrases, déjà c'est un premier problème, ça va, on arrive à peu près à le résoudre. Du coup, après, il y a la segmentation en mots, il faut trouver ce que c'est qu'un mot. Alors, évidemment, entre deux espaces, on prend la suite de caractères et on trouve les mots. En réalité, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça aussi, on s'en sort bien. Après, une fois qu'on a les mots, on essaye de trouver les catégories de ces mots. Est-ce que ce sont des noms, des adjectifs, des verbes, des prépositions, etc. Je vous donne un exemple qu'on utilise énormément en traitement automatique des langues, c'est la petite brise la glace. La petite brise la glace, donc une phrase qui peut être interprétée de deux façons, soit on imagine une petite fille qui brise un miroir, soit on imagine quelqu'un qui est dans le froid et il y a un petit vent frais qui la glace, donc elle est glacée. Voilà. Donc des mots comme glace, comme petite, comme ferme, ça peut être aussi bien un adjectif qu'un nom commun, qu'un verbe qui est au présent de l'indicatif à la troisième personne. Donc une tâche des ordinateurs, ça va être face à ces mots-là, dire là, dans ce contexte-là, il s'agit bien d'un adjectif ou d'un verbe ou d'un nom. Et ce n'est pas forcément simple. Nous, on le fait très très bien, un ordinateur, ça lui demande un certain nombre de processus. Et plus loin, puis après j'arrête. La dernière phase où on se débrouille plutôt bien en TAL à l'heure actuelle, donc en traitement automatique des langues, c'est la syntaxe, c'est-à-dire ce que vous avez appris à l'école primaire, où est le sujet grammatical, où est le COD, le COI, etc. Et donc là aussi, il y a tout un tas de processus qu'on implémente, hein, éventuellement avec des phases d'apprentissage artificiel et des techniques d'intelligence artificielle. Et les systèmes, à peu près, à l'heure actuelle, arrivent à trouver le sujet, le complément d'objet direct et indirect. Mais on ne va pas plus loin. Le sens reste inaccessible.
Merci. Sylvie, est-ce que ce que tu fais professionnellement t'aide à faire parler tes personnages machines, quand tu en as ?
Alors, c'est vrai que je suis dans ce domaine-là, mais quand j'écris des histoires, justement, j'essaie de prendre du recul par rapport à la connaissance de l'intérieur, parce que je pense qu'on sonne plus vrai quand on a du détachement par rapport à l'univers qui nous entoure et qu'on le considère comme finalement évident, logique, n'ayant pas besoin d'être justifié en permanence. Quand dans un récit contemporain, on met en scène un réfrigérateur, on ne passe pas son temps à expliquer quel est le principe qui permet de produire du froid et par quel mécanisme on aspire des molécules. Donc d'ailleurs, je serais incapable de raconter comment marche un réfrigérateur et on peut en mettre tous dans nos histoires. Donc les intelligences artificielles, c'est un peu le même principe, mais j'avais envie de revenir sur ce que disait Frédéric. Parce qu'il a cité des exemples qui font partie de nos références dans le domaine. Et moi, j'ai envie de les prendre un peu d'une autre façon, justement pour montrer les limites qu'il y a à essayer de comparer la manière de penser, si on peut appeler ça penser, des intelligences artificielles et celle des humains. Moi, l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est quelque chose d'encore plus simple, c'est même pas une phrase. Je commence par leur faire analyser une bouteille de bière cassée. Et je leur demande à quel nom se rattache l'adjectif. Bon, on a les mêmes constatations que toi. Là, ce qui est cassé, c'est forcément la bouteille. Après, je leur donne la même construction, une bouteille de bière blonde. Ils comprennent tous immédiatement, s'ils ont déjà fréquenté quelques bistrots, que c'est la bière qui est blonde et que la couleur de la bouteille n'est pas très intéressante. Et après, et c'est là que ça devient intéressant, je leur parle de la bouteille de bière froide. Et je leur demande à quoi se raccroche le froid. Et on arrive très vite à la conclusion que pour un être humain, c'est pas du tout intéressant de se demander si c'est la bouteille qui est froide ou si c'est la bière. Parce que d'une part, on n'a jamais vu de la bière chaude dans une bouteille froide, ou pas longtemps, et le contraire non plus. Et que pour nous, êtres humains, finalement, c'est pas intéressant de désambiguiser cette forme de construction, parce que du point de vue des représentations que se fait un ordinateur, on a des structures d'arbres. Et la grande difficulté, c'est lorsque une phrase permet d'aboutir à plein de séquences arborescentes parmi lesquelles l'ordinateur est tenu de faire un choix. Et il a les plus grandes difficultés à le faire. Et nous, on ne fabrique pas des structures arborescentes dans nos têtes. On marche autrement. Donc, je trouve que c'est une manière assez simple de voir les limites de l'analogie qu'on peut être tenté de faire entre la manière dont nous construisons des processus d'analyse de contenu et de compréhension générale et la manière dont on essaie de le modéliser de manière très approfondie pour arriver à des résultats un peu similaires. Mais tu parlais de science-fiction. La science-fiction ne se pose pas tellement de questions sur la manière dont les IA vont construire leur processus de pensée. On a des postulats et puis on joue avec après.
Très bien. Et ce qui est évident n'est pas forcément logique d'ailleurs. Tu as utilisé deux adjectifs à la suite. Et justement, je pensais à une citation maintenant, semble-t-il, assez connue de Anne Leckie, que je suis bien sûr incapable de citer exactement, mais qui dit, grosso modo, dans le roman Ancillary Justice, la justice de l'ancillaire, qu'une intelligence artificielle est obligée d'avoir des émotions, ou des sentiments plutôt, feelings, pour arriver à prendre des décisions plus facilement. Et peut-être que ça, justement, c'est le début de... on quitte la réalité de la recherche actuelle sur l'intelligence artificielle, mais c'était une pensée que je trouvais intéressante et de toute façon, vous pouvez élaborer.
Yeah, like Sylvie said, our minds don't work the way that we've set up computers to work. And of course, when we're writing science fiction, we're thinking of artificial intelligences that are people, that are characters that respond in human-like ways. As far as I understand it, right now, the really amazing advances, and there have been really amazing advances in artificial intelligence, in information processing, have come from dumping whole internet's worth of data into a program, into a neural net, and then getting really impressive responses back. But human babies don't need a whole internet's worth of data to understand the word no or mama or, you know, all the things that we learn in a year or two. So obviously our brains aren't working that way. And so when we sit down and try and work out a simple algorithm that will let a computer understand the world the way we do, it's not going to have those results. The more that I read and looked into getting ready to write Ancillary Justice, the more it seemed to me that a lot of the way that we think is based on the fact that we have human bodies and our emotions. We like to talk about intelligence and emotion as being two different things, and that if we could only get rid of our emotions, which somehow complicate or corrupt our thinking, that we would be able to think more purely and be more completely logical. But what happens when you take away a person's emotions, when someone has the particular kind of brain damage that makes it difficult for them to recognize or feel fear, for instance, or emotions in general? What happens is people become incapable of making decisions, of making little decisions. Do you want spaghetti for dinner or do you want curry for dinner? Well, you could make a long list of which one was better, but maybe they're both equally good and they cost the same and they're both equally distant from your house, and then how are you going to decide? Well, you decide because one sounds better than the other one. That's an emotional response. Emotions are a really important part of the way that human beings process information and the way that we make decisions. Now, ultimately, we may build an AI that doesn't use a process like that. It wouldn't surprise me if we did. But emotion has turned out to be a really super efficient way of making the kinds of decisions. That's how you know whether the beer bottle is cold or whether the beer is cold inside the bottle, because we know what we would care about. That's an emotion. We care about the beer. So when I sat down to write, I said, well, then I need an artificial intelligence that's going to use emotion to make these decisions. And I think ultimately, probably, if we have any success making an artificial intelligence that will think or act like a human being, it's probably going to have that kind of human embodiment and maybe even some kind of biological component to it.
Okay. Oula. C'est quelque chose dont nous n'avons pas parlé, mais... des intelligences artificielles qui interagissent avec des composants biologiques, ça, c'est une sorte de, comment dire, de cliché maintenant de la science-fiction. Est-ce qu'on a le moindre pas dans cette direction dans notre monde actuel?
Oui, j'ai discuté avec beaucoup de chercheurs et il y a plusieurs écoles. Il y en a pour qui l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très symbolique, comme la grammaire, par exemple. Donc à un niveau très élevé, mais qui n'est pas celui avec lequel nous apprenons. Et puis, il y en a d'autres pour qui une intelligence artificielle telle qu'on l'entend dans la science-fiction ne peut pas exister s'il n'y a pas l'idée d'un corps, déjà du déplacement, peut-être de la douleur, des choses comme ça. Mais une chose intéressante, c'est qu'une des premières histoires de science-fiction avec une intelligence artificielle, c'est L'homme le plus doué du monde, d'Edward Page Mitchell, qui date de 1879, donc c'est assez vieux. Et c'est une histoire dans laquelle on met dans le corps d'un idiot congénital, c'est un mot comme on disait à l'époque, il ne faut pas dire ça maintenant, On lui met une horlogerie qui est inspirée de l'ordinateur de Babbage et puis de la mécanique horlogère, et il devient très intelligent. Il a un cerveau, un faux cerveau, et ça fonctionne. Et la première chose qu'il veut faire, finalement, c'est de conquérir le monde et puis les femmes. Et c'est assez amusant, cette idée très ancienne, finalement, que un ordinateur intelligent pourra avoir que ce genre d'idée. Voilà.
Comme les lézards géants, en fait.
Oui.
Peut-être qu'on peut ajouter, en plus de ce genre de cas un peu extrême, on est à l'heure actuelle en train de concevoir des prothèses pour des handicapés de plein de sortes. Et dans ces prothèses, il y a un composant évidemment mécanique, mais il y a aussi un composant informatique qui potentiellement fait appel à des techniques d'intelligence artificielle. Par exemple, pour aider à l'apprentissage et à que la personne s'adapte beaucoup plus rapidement à la prothèse que s'il n'y avait pas ce composant informatique. Donc, pour répondre à la question, est-ce que, enfin, entre le lien entre intelligence artificielle et corps, on peut voir ça aussi sous cet angle-là.
Tu veux dire
je réagissais sur l'idée d'intelligence, parce que c'est vrai, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double sens, en fait, sur l'intelligence. On peut parler de l'intelligence comme un caractère de l'être humain, ou on peut parler de l'intelligence comme un caractère propre à certains êtres humains. C'est-à-dire qu'on peut, nous-mêmes, on fait des distinctions entre l'intelligence de différents humains. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, par exemple, Turing, quand il fait ce fameux article fondateur, l'un des exemples qu'il donne de questions qu'on pourrait poser au cours du test, c'est de résoudre un problème d'échec. Bon. Or, effectivement, alors pendant très longtemps, et encore maintenant sans doute, on considère que résoudre un problème d'échec, être très fort aux échecs ou au go, c'est la preuve d'une puissante intelligence. Or, c'est précisément ce que l'informatique, ce que l'ordinateur fait très bien. C'est-à-dire qu'on sait très bien faire des gens très intelligents dans ce domaine des échecs, et maintenant même du go. Alors que par contre, on a beaucoup de mal à faire des idiots informatiques. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Ce n'est pas de modéliser l'intelligence en ce sens du génie de Kasparov, c'est de modéliser l'idiotie, la normalité de quelqu'un qui peut effectivement comprendre que si la bouteille de bière est froide, sans doute la bière dedans l'est. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de modéliser un alcoolique ordinaire que quelqu'un qu'un génie.
Oui, et en fait même, tu as dit on sait faire des gens, non, on sait faire des machines, et à vrai dire, l'intelligence peut être au-delà des humains, hein. Il y a une intelligence animale aussi qui pose d'autres problèmes, bien entendu. Je pensais à ce que disait Frédéric sur les prothèses. En un sens, on peut considérer aussi que quand on apprend à faire des gestes, c'est en partie notre main qui apprend et pas seulement notre cerveau. Mais une autre question est celle du désir, hein, du désir pas forcément sexuel, du désir, bon, bien sûr, voilà l'exemple que tu donnes, la première chose à laquelle pense notre être amélioré, c'est conquérir des femmes. Bon, c'est un être machinique mâle, visiblement, mais il y a le désir plus généralement de faire quelque chose qui est quelque chose qui semble manquer encore aux intelligences artificielles qu'on a, mais qui semble nécessaire pour celle que nous voulons imaginer. Est-ce que je me trompe ?
Alors, il me semble qu'on ne peut pas parler de l'idée de désir sans parler de l'idée de conscience, et surtout de conscience de soi-même. Et c'est probablement des choses qui sont liées. Et en tant que domaine de recherche, je ne connais pas d'équipe, peut-être que mes collègues en connaissent, qui travaille sur la manière dont on pourrait essayer de faire prendre conscience d'elle-même à une intelligence artificielle. Mais de toute façon, d'abord, on n'a pas la moindre idée de la manière dont il faudrait s'y prendre. Il y a probablement nécessité d'un substrat biologique, ou bien il faut évidemment peut-être partir tout de suite sur des êtres hybrides. Mais si ce sont des êtres purement machiniques, on peut tout simuler, sans doute. Mais est-ce que la simulation est équivalente à la réalité qu'elle simule ? Ça, c'est une question philosophique vertigineuse à laquelle ont réfléchi des auteurs de SF, comme Philippe K. Dick, par exemple. Et qui ne sera jamais probablement complètement résolu. Mais de toute façon, d'une part, on ne sait pas comment il faudrait faire, mais Anne Leckie nous a donné le seul argument, à mon avis, qui donne un sens à la démarche elle-même, c'est-à-dire un sens économique, rationnel, au sens de l'efficacité, de la raison pour laquelle ça pourrait être intéressant de faire éprouver des émotions à une IA. Si c'est pour qu'elle marche mieux, d'accord, ça a un sens. Mais on n'est pas du tout sûr qu'elle marcherait mieux. Il y a quand même un risque, si elle se met à avoir des envies, c'est qu'elle ait beaucoup moins envie de faire ce qu'on lui a demandé de faire et qu'elle poursuive ses propres centres d'intérêt, qu'à la limite, on aura de plus en plus de mal à comprendre quand l'IA évoluera. Donc, est-ce que c'est un objectif pertinent ? On n'en est pas encore tout à fait convaincu.
Yeah, I absolutely agree with Sylvie. And one of the problems when you say, how do we make an artificial intelligence that is conscious and self-aware, is that we're not even sure what consciousness is. If you talk to neuroscientists, we don't know what that is. The closer you look at it, the more it kind of disappears in fragments. We think of it as something special that makes us better than animals, although animals probably have exactly the same kinds of experiences that we do. But we don't know what it is that is supposedly makes us so special. So that's part of what makes it so difficult to imitate, is we're trying to build something, we're trying to build a facsimile of something that we don't actually know how it's put together. And it seems very simple to us, but it's so much more, our very simple system is so much more flexible than the Go playing artificial intelligence, which plays Go very well, but it's not going to cook dinner or be nice to the people around it or do anything. The idea of, but then you build an AI that does have feelings, let's say we did, and of course that opens up a huge science fictional can of worms, because we all know what the standard artificial intelligence story is, right? It becomes powerful and super smart, and then it kills all humans because it hates being enslaved, or, it goes all Skynet on us. Which is, I find that super interesting that that's our assumption of what would happen. I think it would be really cool if we developed an artificial life form that took its own route, that became its own thing and also related to us. I kind of feel like that's one of the things that a lot of us who are science fiction fans really kind of desire and want. And I think that would be really neat. I don't think that they would destroy the world necessarily. But yeah, I absolutely agree with Sylvie. And when you make a facsimile of a thing, you're right, that's a huge philosophical problem. How good is the imitation? And is that really the thing itself? And, we could have a room full of philosophers and they'd be here forever on that question.
Une réponse, évidemment, est celle que vous donnez, Anne Leckie, dans vos livres. C'est les stations spatiales ont été construites pour prendre soin de leurs résidents, et donc elles ne peuvent pas s'empêcher d'être sympathiques, en tout cas avec leurs résidents humains, d'être bienveillantes envers leurs résidents humains.
Yes, yeah, I actually. I've become kind of frustrated with the standard artificial intelligence's want to kill us all thing. Even now, the kinds of artificial intelligences that are operating that you can find, Siri and all the various other, the algorithms that run recommendation things and that people are using to diagnose illnesses, those are all fine. The problem is not that those things don't work properly or that they're going to do anything bad. The problem is the data that is being fed into them producing the outcome. The algorithm might be perfectly fine, but when the data comes with a bias already inherent, you're going to get data that says, the police should stop these particular people because of this thing. Well, maybe that's not actually the thing you need to be looking for, but that's the information that's fed into the engine, into the artificial intelligence. Now, as people, we can look around and go, oh, wait, that information isn't right. But artificial intelligence, as we have them, can't do that. That's a huge danger. It can cause real, honest-to-goodness harm to people. But that's not what people are worried about. People are worried about Skynet killing all humans on the planet. And so I kind of wish people would think a little bit differently about artificial intelligences and how we might relate to them, just for the sake of how our society is going today.
Et nous reviendrons sur cette question mercredi à 10h30. Il y a, je fais la publicité pour le reste du festival. Il y a une autre table ronde sur les machines bienveillantes de la science-fiction. Non, si vous aviez quelque chose... Oui, Jean-Noël
Oui, juste, j'oublie tout le temps les choses que je veux dire. Et donc, au tout début, j'aurais dû raconter une chose intéressante. C'est que dans l'intelligence artificielle, à chaque fois qu'une technologie commence à être au point, elle sort de l'intelligence artificielle. En fait, c'est plus, par exemple, la reconnaissance des caractères ou des choses comme ça. Ça devient de l'informatique, finalement. Et voilà. Donc il y a aussi un fantasme derrière l'intelligence artificielle. Le mot fait peur à beaucoup de gens. Mais
si une machine peut le faire, c'était finalement pas si malin, c'est ça.
Voilà, j'imagine. Parce qu'on sait qu'un bébé, même avant de parler, peut être choqué par la construction d'une phrase, par exemple, qu'un ordinateur sera incapable d'analyser. Ouais. Enfin, ou ne pourra pas voir le problème. Quoi.
Je confirme, oui, oui.
Il y a des tas de méthodes qui permettent de développer des services intelligents. Anne évoquait Siri tout à l'heure, ça fait partie des outils de notre environnement. Mais en fait, ils ont envahi notre quotidien d'un tas de manières. Et derrière, il y a des choses que les informaticiens considèrent habituellement comme sans mystère. Il y a tout le secteur du data mining, la fouille de données, qui permet de gérer des grosses masses de données et d'en extraire des tendances statistiques. Ça débouche sur des tas de trucs, y compris le fait que quand vous vous connectez sur Amazon pour passer commande d'un produit, le système vous conseille parce qu'il a fait de l'apprentissage sur des populations et sur vos caractéristiques et vos centres d'intérêt personnels. Mais il y a aussi de la recherche opérationnelle pour tout ce qui est optimisation. Il y a aussi des techniques de cartographie pour aider à visualiser. Ça aurait semblé extraordinaire. Moi, quand j'étais jeune, si on m'avait dit que j'aurais dans mon téléphone, enfin dans un appareil portatif, quelque chose qui aurait pu m'aider à me guider dans une ville que je ne connais pas et à me dire où est la boulangerie la plus proche à chaque fois que j'ai besoin d'en chercher une, ça m'aurait paru un service d'un niveau d'intelligence extraordinaire. Et ce que je trouve intéressant du côté des chercheurs, c'est qu'en gros, il n'y a qu'une des tendances qui à elles toutes ont fait émerger l'existence d'un tas de services intelligents, il n'y en a qu'une qui continue à garder cette étiquette sans trop de difficultés, c'est tout ce qui relève des réseaux neuronaux, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne comme des boîtes noires, ça rejoint, on parlait de deep learning tout à l'heure, c'est tous les systèmes qui font de l'apprentissage, mais en gros, on ne comprend pas très bien comment ils raisonnent. Et on ne peut pas leur faire expliciter leur raisonnement. Et moi, j'y vois, en tant que citoyen, ou au moins autant qu'auteur de SF, un vrai problème. C'est qu'il y a de la transparence dans toutes les autres technologies qui peuvent être mises en œuvre. On peut visualiser les cartes produites par Google Maps, on peut visualiser à peu près toutes les couches intermédiaires de tous les systèmes intégrés qu'on a actuellement en main. Mais quand il s'agit de réseaux neuronaux, on ne peut pas décomposer du tout le raisonnement, donc on ne peut pas argumenter. Et quand on se trouve face à quelqu'un dont on ne peut pas contester la décision et qui ne peut pas la justifier, eh bien, je trouve ça assez effrayant comme perspective, personnellement.
C'est certain. Quelque chose à ajouter, Jean-Noël?
Oui. Oui, une chose intéressante avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des interfaces pour dissimuler aux gens ce qui se passe. Par exemple, il y a des pages qu'on va chercher sur Internet et qui, au lieu d'arriver immédiatement, ce qu'elles pourraient très bien faire, mettent un petit temps d'attente pour laisser croire aux gens que la machine réfléchit. Parce que c'est anxiogène que les choses se passent automatiquement. De même, Facebook a retiré un peu Enfin, je sais pas, je le vois plus moi, mais la reconnaissance des visages qui vous disaient ça c'est machin, ça c'est bidule, etc. C'était un peu angoissant. Et donc on rend les machines un petit peu dissimulatrices. Et là, il y a peut-être une forme d'intelligence qui va en être, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, qui est un récit avec une intelligence artificielle assez rationnelle en fait, mais à qui on a implémenté un mensonge. On lui oblige à cacher à l'équipage la vraie raison de sa mission. Et c'est le mensonge qui fait tout le drame après, toute la tragédie. Voilà.
Bon, au point où on en est, peut-être que justement dans un désir d'ouverture, on pourrait prendre des questions de la salle, parce que vous êtes nombreux, vous avez peut-être...
Oui, bonjour, merci pour la prestation. Voilà, ben, j'avais juste une petite question. On a beaucoup parlé donc, d'intelligence artificielle et donc de tout ce qu'on va plus pouvoir faire et qu'ils vont pouvoir faire à notre place, parce que c'est un petit peu ça le sujet. Donc, poussé à son paroxysme, normalement, demain, on n'aura plus rien à faire. Et tous les robots, les machines vont calculer à notre place, vont... travailler d'une certaine manière, c'est-à-dire dans la conception des choses, etc. Donc je voulais savoir si on n'a pas parlé de nous, ce qu'on allait faire, et est-ce qu'on va être tous obligés d'aller chez Mickey demain? Voilà. Enfin, chez Mickey, je veux dire, de se divertir. Et on n'aura plus rien à faire, ou est-ce qu'on pourra encore penser à certaines choses?
Oui, moi je peux essayer de dire deux, trois petits trucs. Il existe un site web, je ne sais plus, à l'initiative d'une revue, je crois, qui a pris la liste de tous les métiers humains à l'heure actuelle et de calculer pour chacun d'eux la probabilité pour que ce métier soit automatisé dans les 10 ans à venir ou 20 ans à venir. Et de regarder un peu les chiffres, c'est assez amusant en fait. Très personnellement, moi, je pense que la machine calcule déjà bien mieux que nous, fait déjà de l'assemblage de voitures mieux que nous, etc. Enfin, il y a déjà énormément de tâches que la machine, enfin, pour laquelle elle nous dépasse, mais alors largement. Mais alors, dès qu'on rentre dans le domaine du langage, à mon avis, c'est pas prêt, c'est pas pour tout de suite.
Et dans le domaine du désir et des sentiments non plus. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire.
Oui, mais on n'est pas payé pour ça.
Ça peut venir.
C'est ça la grande question, c'est que on n'est pas payé pour l'instant si on ne fait pas un travail reconnu par la société. Donc, moi, il me semble urgent qu'il y ait toute une réflexion politique au niveau de la société sur qu'est-ce qui fait la valeur d'un individu lorsque ça n'est plus son travail qui fait la valeur. On a besoin de repenser... le droit à la vie, le droit à la protection, la place de chacun que traditionnellement on avait réglé par la question du travail, mais ça marche plus comme ça. Donc on court à la catastrophe si on ne trouve pas autre chose que le travail, je pense.
I would also like to point out how many things are automated now that many of us do for ourselves just because we want to. There are a lot of them. I bet there are a lot of you out there who knit or who do woodworking or bookbinding or so many to cook. In theory, as long as we had the money, none of us would have to cook at all if we didn't want to. We could go down the street and buy our food. But many of us cook because we enjoy cooking. So if you're looking at a future where everything can be mechanized and that mechanization is dependable, we're not talking about depending on artificial intelligences that might not want to cook for you that night, but artificial intelligence, machines that are going to do exactly what you need it to do and mechanize everything. I want to completely agree with what Sylvie said about valuing what kinds of work. And think about what kind of an economic system that would require, because that would be a huge different thing. But in the end, we do things because we enjoy doing them or get something out of doing them, and we would do those things. We would still be able to do those things.
Juste ici.
Bonjour. Oui, d'accord.
Je voulais savoir, on parle beaucoup d'intelligence artificielle humaine, on va dire, ou qui essaye de ressembler à l'humain, mais en termes d'intelligence artificielle animale, est-ce qu'on a des avancées intéressantes ou, je voulais savoir, on est Où est-ce qu'on en était, pardon, en termes d'intelligence artificielle animale?
Je peux répondre. Enfin, je peux répondre, même si je ne sais pas, je ne connais pas du tout l'état de l'art de tout ce qui se passe, mais je sais qu'il y a... Autrefois, on cherchait à faire des intelligences artificielles très intelligentes qui résolvaient des problèmes difficiles pour les humains, comme être bon aux échecs. Parce que quand on dit l'ordinateur a battu l'homme aux échecs, on veut dire en fait qu'il a battu le champion d'échecs. Mais moi, depuis que j'ai un ordinateur, j'ai un jeu d'échecs et il m'a toujours battu. On n'est pas tous joueurs d'échecs. Mais voilà, donc on partait de quelque chose de très intelligent et puis finalement les résultats étaient un peu décevants et difficiles et loin quand même. Et maintenant on s'intéresse aux intelligences émergentes, donc des robots qui travaillent en essaim par exemple, comme des essaims animaux, et c'est des modèles qui intéressent beaucoup les chercheurs. Voilà.
Quelque chose de plus, oui.
Pour compléter, moi je parlais tout à l'heure des prothèses. Il y en a qui ont été essayés avec des primates, enfin des singes, je ne sais plus quelle espèce. Et du coup, avec une interface cerveau-machine, le singe arrive à faire bouger un bras robot qui lui-même a été conçu avec des techniques d'intelligence artificielle, parce qu'il y a tout un tas de processus qui traitent ce que le cerveau émet pour en faire un ensemble de mouvements. Donc ça, c'est à l'étude en ce moment.
Est-ce que je peux juste dire un mot? Ce sera très court pour enchaîner. On ne sait pas trop comment aborder la question de l'intelligence animale. En tout cas, on n'a qu'une manière de le faire. Ça, elle est complètement anthropomorphique. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie d'évaluer l'intelligence animale en la comparant à l'intelligence humaine et en particulier en essayant de mesurer les caractéristiques du langage des espèces animales ou leur capacité à s'approprier des codes symboliques qui seraient comparables à notre langage à nous. Mais on passe probablement à côté de tout un tas de choses qui seraient caractéristiques de leur mode de fonctionnement et qui ne sont pas dans le nôtre. On est complètement anthropomorphique là-dessus aussi. Et c'est inquiétant parce que c'est une vision réductrice.
Ok. D'accord. Question suivante maintenant.
Bonjour. On parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle et de sentiments. Et on voit, avec par exemple l'exemple des voitures autonomes, que certains systèmes d'intelligence artificielle sont obligés, pourraient être dans la situation de prendre une décision éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va prendre la solution de blesser ou de tuer la personne qui est à l'intérieur, ou de blesser ou de tuer des obstacles humains ou animaux, et comment elle prendrait cette décision en fait?
That's a really good question, and you're right with cars in particular. That's a real problem, and it will be increasingly a problem with like medical algorithms. What I find really interesting about that question, though, is not the artificial intelligence angle, but the times that we choose solutions to problems that may be looking at it in terms of benefit of most people would come up with different answers, or where two answers are functionally the same, one person will die, but it means a very different thing to each person depending who ends up getting killed. The trolley problem, of course, where you say you can pull a switch to kill one person or not pull a switch and have five people die, and pulling a switch to kill one person feels worse to you because you feel like you did something to kill that person, where not pulling a switch and five people dying is, you would think, a worse thing. Maybe a computer would make a better decision on that. But then, as human beings, then we want to know who's to blame and where does moral responsibility lie. And that's a very urgent emotional issue for human beings, but it isn't for artificial intelligences. And I don't know what the answer to that is, but I think it's really interesting looking at our emotional responses to certain things, which are important, I don't want to dismiss them, as opposed to what the actual best outcome would be. I find that a really interesting gap.
Donc on a peut-être le temps pour une question de plus.
Oui.
Oui, il y a un monsieur qui a le micro.
J'ai le micro, d'accord. Bonjour. C'est pour suggérer l'idée, disons, d'abandonner l'idée à l'ordinateur de faire tout, c'est-à-dire traiter les problèmes des sentiments, de l'éthique, etc. Et partir du fait que le monde pourrait être divisé en deux, au même type que le rapport animal-humain, mais enfin, c'est pas le sujet, entre les tâches qui seraient purement mécanisables, auquel cas, on les laisse à l'ordinateur, et celles qui seraient spécifiquement humaines, à savoir une décision éthique, par rapport aux émotions, tout ça, l'idée, ce serait de diviser le monde tout simplement en deux. Peut-être que ça pourrait résoudre des problèmes, et d'arrêter de demander à une machine de tout faire. Qu'est-ce qui restera à l'humain à la fin? On se demande, quoi.
Je peux essayer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse catégoriser comme ça aussi, de manière aussi sèche. Parce que, par exemple, à l'heure actuelle, on a des systèmes qui sont capables de faire du diagnostic médical. Du coup, qui sont dans des questions, alors peut-être pas d'éthique, mais en tout cas de trouver le... la solution la plus humaine, enfin celle qui correspond le mieux au cas qui se pose. Et à l'heure actuelle, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on continue à demander leurs avis aux médecins humains uniquement, ou est-ce qu'on demande au système de diagnostic et que à lui ou les deux en même temps? Donc les questions se posent en ce moment, en fait.
Oui, si je veux me permettre une suggestion... C'est simplement à chaque fois que l'ordinateur tomberait sur un écueil, comme l'histoire de la phrase avec la valise, la poussette, etc., ou en matière de diagnostic, évidemment, on sait bien que les ordinateurs ont des meilleurs diagnostics et ça commence que les humains, on est bien d'accord. Mais quand il va tomber sur un problème, peu importe, éthique, ou une phrase sur laquelle à un moment il y a une arborescence, etc., là, l'ordinateur dit « là, je bute ». Ça veut dire que ce sera la façon, le critère pour diviser, disons, entre ce qui serait mécanisable à un instant donné, parce que tout va évoluer, et puis ce qu'on laisserait en dernier à l'humain. Voilà, c'était mon critère, la méthode, si vous voulez.
Alors, je voulais juste dire qu'il y a une table ronde qui va peut-être répondre à cette question et qui s'appelle « L'homme, rouage de la machine ». Puisque là, dans la vision qu'on est en train de mettre en place, c'est la machine qui ferait appel à l'homme quand il y a un truc qu'elle ne saurait pas faire. Voilà. Donc, ce sera peut-être dans une autre table ronde.
Oui, et mon impression aussi est que le problème tel qu'il est posé est insoluble, en fait. parce que ça fait partie de la conception même du système de dire quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Et que, ben voilà, le problème, c'est de concevoir le système. Je crois qu'on est à une minute de la fin. S'il y a une question, encore une, mais alors très courte.
Bah, bonjour. Moi, ce serait plutôt une question un peu plus compliquée. Vous qui êtes dans le travail de rapprocher... l'intelligence artificielle de l'essence de l'humain, c'est-à-dire de l'âme humaine, est-ce que vous n'avez pas dans vos recherches des fois l'impression que certains éléments de l'âme humaine justement sont artificiels, c'est-à-dire répondent à des causes finalement que l'on ne connaît pas, que l'on n'arrive pas à voir, mais que vous entrevoyez qu'il y a des causes derrière l'âme humaine finalement et que l'âme humaine serait artificielle d'une certaine façon?
Je ne sais pas si on peut définir l'âme humaine. C'est un mot très vague, en fait, et qui a beaucoup d'acceptions selon les époques, les religions, puisque c'est un mot très religieux aussi. Mais on parle toujours d'âme quand je parle d'intelligence artificielle. C'est marrant.
Non, mais c'est une question qui traîne depuis des siècles et des siècles, de toute façon. Après, utiliser l'âme ou utiliser l'esprit, finalement, ça revient un petit peu au même. La question, c'est, encore une fois, et je remets ça encore à Turing, c'est que qu'est-ce qui est déterministe, qu'est-ce qui est déterminé à l'avance dans la façon dans nos consciences? Est-ce qu'on a une illusion de liberté construite sur un ensemble de processus trop complexes pour qu'on puisse les voir, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui échappe au calcul, au déterminisme? Ça, la question, elle est posée depuis Descartes et bien avant. Et c'est vraiment une question sur laquelle jamais le progrès scientifique et technique ne donnera réponse. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'on puisse apporter une réponse à une question comme ça avec des artefacts, en tout cas.
Je crois que nous sommes arrivés au point où non seulement l'horloge nous dit d'arrêter, mais encore les questions qui se posent sont irrépondables structurellement. Et donc, nous vous laisserons y réfléchir et nous vous remercions pour votre attention et nous laissons la place à Hugo Bellagamba.